Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'économie. Aujourd'hui, notre studio se transforme en salle de marché.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Si l'on se fie uniquement au cours de la bourse, difficile d'imaginer que le monde est en train de traverser l'une des pires récessions de son histoire. Les marchés connaissent en effet une vague d'euphorie qui tranche avec les annonces de plans sociaux et de faillites. Certes, au mois de février, les bourses mondiales ont dévissé face au coronavirus, mais les indicateurs sont rapidement revenus au vert. Alors comment expliquer ce décalage entre le secteur financier et l'économie réelle ? C'est la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture et la rumeur de Wall Street est parvenue jusqu'à nous. Nous allons déambuler dans les salles de marché en compagnie de nos deux invités. Bonjour Catherine Lubochinski.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et membre du Cercle des économistes. Et bonjour Yamina Tajedine.
Bonjour.
Vous êtes également économiste, professeur à l'université de Lorraine, chercheuse au sein du laboratoire Beta et spécialiste des marchés financiers. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Et d'abord, revenons quelques mois en arrière lorsque le coronavirus affolait les marchés financiers.
Mesdames et messieurs, bonjour. L'épidémie s'étend, la bourse dégringole de plus belle à Paris comme ailleurs.
Les bourses ont plongé comme rarement à Wall Street. Juste après l'ouverture, la chute était telle que les cours ont été suspendus. Toutes les places européennes ont dévissé. Milan s'écroule de près de 17%, moins 12,24% à Francfort, une chute de près de 10% à Londres.
C'est bien un krach boursier qui s'est produit aujourd'hui. Le CAC 40 s'effondre à 4044 points, c'est simple. C'est la plus lourde chute de son histoire. Donc si on a pu parler de krach par le passé, on peut encore plus le faire ce soir.
Dans cette salle des marchés, on ne peut que constater les dégâts.
On a à peu près effacé un an de hausse en deux semaines. Donc c'est très, très important la chute qu'on a pu connaître ce matin.
À la fin du mois de février, Yamina Tajedine, les bourses du monde entier ont connu une chute vertigineuse face à l'accélération de l'épidémie.
Exactement. Donc ça a été assez brutal, puisque finalement, février, on va dire que si on prend le cas de la France, l'épidémie semble assez lointaine, alors même qu'elle est déjà très présente en Chine. C'est pour ça que les marchés ont réagi. Mais on a une phase très intense de chute des prix qui va se dérouler effectivement du 19 février jusqu'au 10 mars. 10 mars étant pour Paris le point le plus bas. Pour New York, ce sera un peu décalé et le point le plus bas sera le 23 mars.
Et l'un des déclencheurs de cette panique boursière, Catherine Lubochinski, ça a été l'effondrement des cours du pétrole ?
Alors effectivement, l'effondrement des cours du pétrole, ça a été, on pourrait dire, la cerise sur le gâteau. Déjà, on avait les inquiétudes qui commençaient à monter en ce qui concerne la Covid, mais en plus, il y a eu une crise pétrolière, donc impossible de s'entendre pour limiter les quantités à produire de pétrole, et donc un cours du pétrole qui a atteint même une journée zéro. Zéro, rien, voire un peu légèrement négatif. Donc là, on arrivait dans un terrain vraiment inconnu. Et ça veut dire pour les États-Unis en particulier, la mise en difficulté de toutes les compagnies pétrolières et extractrices de matières premières. Et donc ça a aggravé l'inquiétude qu'il y avait sur la pérennité des entreprises.
Sur cette inquiétude, justement, ce que les marchés redoutent à ce moment-là, donc fin février, début mars, Yamina Tajedine, c'est une débâcle de l'économie réelle.
Exactement, et qui vient de Chine. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que si l'épidémie n'est pas encore arrivée réellement, ni aux États-Unis, ni en Europe, elle est déjà très présente en Chine, qui est le centre de production mondiale. Mais à partir du moment où la chaîne de valeur s'arrête en Chine, que vous avez une rupture dans le transport des marchandises, eh bien évidemment, cela a des répercussions sur l'ensemble des entreprises qui mobilisent évidemment la production qui vient de Chine. Et par ailleurs, dès février, vous avez un ralentissement économique très très fort en Chine. Donc les mauvais résultats de l'économie chinoise sont connus fin février.
Ce qu'on pouvait redouter, Catherine Lubochinski, c'était un assèchement du financement de ce qu'on appelle l'économie réelle qui aurait répété le scénario de la crise financière de 2008.
C'est-à-dire que, avant de passer, avant de vous répondre, je voudrais quand même rappeler que le prix d'une action, en théorie, correspond à ce qu'on appelle la valeur actualisée, tous les flux qu'elle va procurer. Ces flux sont les dividendes. Et eux-mêmes, ces dividendes dépendent de la profitabilité des entreprises et puis du taux de distribution de ces profits. Donc là, on a un gros problème parce qu'on arrive en terrain inconnu avec cette crise sanitaire qui se profile à l'horizon, cette crise pétrolière, cette interruption des chaînes de valeur. Et donc, on se dit que la profitabilité des entreprises est en difficulté et donc les dividendes futurs risquent de baisser. Et donc s'ils risquent de baisser, bah la valeur des actions va plonger. Et c'est ce qui s'est passé parce que les investisseurs en général surréagissent ou sous-réagissent, ça dépend, c'est-à-dire que on peut dire, puisqu'on est en période de crise sanitaire, que les marchés sont cyclotimiques, ça il faut pas l'oublier. Et donc on a des problèmes d'évaluation de ces dividendes à très long terme. Et ce que font les marchés, c'est qu'ils vont faire des évaluations des dividendes sur une période très courte, sur l'année ou les deux années à venir, et que cet impact-là va entraîner des fortes variations du prix des actifs.
Est-ce qu'il faut vraiment faire la différence, selon vous, Catherine Lebauchinsky, entre l'économie réelle d'un côté et le secteur financier de l'autre ?
Alors, de toute façon, on ne peut pas avoir d'économie réelle qui fonctionne sans finance. Il faut financer l'économie et c'est très important d'avoir un système financier. Alors après, on a parlé de déconnexion de la sphère financière de la sphère réelle parce que la sphère financière va représenter 3, 4, même plus, 5 fois l'activité réelle. Donc on se demande pourquoi il y a tant de flux financiers. Ce qui est important sur les marchés, c'est qu'il faut qu'il y ait de la liquidité. Et donc il faut toujours qu'il y ait beaucoup d'intervenants, qu'il y ait beaucoup de transactions. Alors après, on parle des vilains spéculateurs en France. Hein, le spéculateur est toujours vilain, mais ces spéculateurs apportent quand même la liquidité minimum. Et là, je vous parle de liquidité des marchés, qui n'est pas la liquidité des banques, qui, quand elle s'assèche, requiert l'intervention des banques centrales.
Mmh. Yamina Tajeddine, sur cette séparation entre le secteur financier et l'économie réelle.
Alors moi, j'aime bien faire cette séparation, parce que justement, ça permet aussi de percevoir que l'événement que nous vivons actuellement sur les marchés financiers, sur la sphère réelle, n'a rien à voir avec la crise de 2007-2008. Puisque la crise de 2007-2008 part de produits financiers. Et cette crise de la finance, interne à la finance, va avoir des répercussions sur la sphère réelle. Là, on est dans une causalité inverse. Ça veut dire que ce soit le problème du pétrole ou que ce soit le problème de l'économie chinoise, eh bien, on part de la sphère réelle. Et finalement, les cours boursiers vont révéler ces mauvaises anticipations, mais qui viennent d'un regard ou d'un calcul sur les anticipations de la sphère réelle. Et donc, à ce titre-là, la causalité étant différente, on a finalement un crack boursier précoce et qui devance largement les anticipations d'un certain nombre d'hommes politiques, de citoyens, qui n'avaient pas nécessairement mesuré l'impact réel, et non pas l'impact financier, réel de cette crise. Il faut bien étudier les relations et les causalités entre les deux, et chaque crise a des configurations spécifiques, mais ne pas oublier qu'on peut avoir une finance qui reste utile à la sphère réelle.
On va bien sûr y revenir en parlant notamment de l'euphorie qui est revenue sur les marchés financiers. Mais d'abord, on reste encore un petit peu en ce mois de février. Les cours s'effondrent et les bourses et les autorités de régulation essayent alors de limiter la casse. Écoutez Robert Ophel, il est le président de l'autorité des marchés financiers.
Il y a un certain nombre d'outils qui sont à disposition. J'en cite un avant de revenir aux ventes à découvert. C'est comment on utilise les coupes-circuits sur les marchés. Vous savez que quand on décale, le prix décale de façon très significative, on suspend pendant un certain temps les transactions pour que chacun reprenne son esprit et qu'on évite un emballement inconsidéré des prix. Donc avec Euronext, Euronext revoit avec les superviseurs les modalités de ces coupes-circuits afin de les adapter à la volatilité extrême du marché. Le deuxième élément, c'est les ventes à découvert. Soyons clairs, aujourd'hui, les ventes à découvert, elles n'ont pas augmenté de façon massive. Et ce ne sont pas les vendeurs à découvert qui font le mouvement actuel du marché à la baisse. Mais honnêtement, dans le marché que nous connaissons, qui est vraiment stressé, avec une orientation claire à la baisse, je ne souhaite pas qu'il y ait un stress potentiel supplémentaire qui vienne de vendeurs à découvert éventuels.
Le président de l'Autorité des marchés financiers, Robert Ophèle, c'était le 17 mars dernier. Avant d'en venir aux ventes à découvert évoquées ici, un mot d'abord sur les coupes-circuits. Ils servent à tempérer les marchés financiers, Yamina Tadjedine ?
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une suspension dite temporaire de la cotation de certaines sociétés dès lors que l'on estime que soit il y a des rumeurs trop importantes à leur égard et rumeurs qu'il n'est pas possible de vérifier et qu'on a un volume inhabituel de transactions sur ces titres-là. Et l'idée derrière des coupes-circuits est en fait l'idée de protéger les personnes qui seraient mal informées et qui pourraient avoir tendance à des achats ou des ventes guidées par cette rumeur ou par ces mouvements non nécessairement compréhensibles sur certains titres.
Les coupes-circuits sont décidées par les bourses elles-mêmes, mais l'autorité des marchés financiers peut aussi prendre un certain nombre de décisions, et c'est ce qu'elle a fait en l'occurrence en décidant d'interdire les ventes à découvert. Expliquez-nous de quoi il s'agit, Catherine Lubochinski.
Alors il faut comprendre les ventes à découvert dans un sens plus large, c'est-à-dire l'interdiction d'augmenter les positions courtes nettes. Juste deux mots d'explication, on est habitué à acheter un titre et quand le cours monte, on gagne de l'argent, mais si le cours baisse, on en perd. Et logiquement, il doit être possible d'avoir des stratégies telles que quand le cours baisse, on gagne de l'argent. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert, c'est-à-dire que vous vendez un titre que vous ne possédez pas, donc vous devez l'emprunter pour le vendre, en espérant que pendant le temps où vous l'avez emprunté, le cours va baisser, donc vous le rachèterez moins cher pour le rendre au prêteur. Donc vous pouvez aussi faire des profits quand les cours baissent. Bon, alors pourquoi il ne faut pas que l'interdiction ne porte que sur des ventes à découvert? Ben parce que vous pouvez aussi utiliser des produits dérivés, des options ou des futurs, pour générer des positions équivalentes à ces ventes à découvert, c'est-à-dire des positions qui vont permettre de faire également des profits quand les cours baissent. Donc il faut une vision plus large que la vente à découvert, et d'ailleurs l'AMF a bien, les interdictions de l'AMF ont bien porté sur les ventes à découvert, mais aussi sur l'interdiction d'augmenter les positions courtes, c'est-à-dire des positions qui permettent de gagner de l'argent quand les cours baissent. Et ça, évidemment, c'était pour éviter, même s'il y a de nombreux débats académiques et qu'on n'est pas très sûr de l'impact de ces interdictions, mais c'est pour éviter qu'il y ait éventuellement une pression supplémentaire à la baisse des titres, du prix des titres qui baissait déjà énormément.
Et c'est une interdiction qui avait déjà été décidée pendant plusieurs mois en 2008, Yamina Tadjedine. Mais comme le dit effectivement Catherine Lubochinski, ça ne fait pas l'unanimité.
Il y a un certain nombre de professionnels de la finance qui voient dans cette décision, qui est une décision des autorités de réglementation, une intrusion de la puissance publique, donc d'un tiers, dans l'auto-organisation des marchés. Et par là même, en interdisant ce type de position, eh bien, finalement, un certain nombre d'ordres ne sont plus passés et ces ordres seraient censés apporter de l'information au marché. Et donc, effectivement, d'un point de vue informatif, eh bien, ces décisions sont mal jugées par certains intervenants. Alors moi, je suis pas nécessairement de cette opinion, parce qu'en fait, si on revient sur la décision prise en France de cette interdiction-là, eh bien, elle s'inscrit dans un moment où vous avez ce qu'on appelle une volatilité très forte des cours, c'est-à-dire que les cours varient énormément, et ces volatilités extrêmes sont induites par un volume très très important d'ordre, et pour avoir un ordre de grandeur, puisque cela avait été exprimé par le dirigeant de l'autorité des marchés financiers, on a eu le 16 mars plus de 16 milliards de titres qui étaient échangés, 12 milliards de titres échangés, c'est colossal. Donc on sait très bien qu'il y a un élément de procyclicité qui apparaît avec les ventes à découvert. Et effectivement, on a un aspect informatif, mais ce volume très important de titres, constitue une source potentielle de déstabilisation plus grande encore et de prolongement plus long du crack.
En quoi la pratique des ventes à découvert contribue-t-elle habituellement à la fluidité des marchés, Catherine Lubochinski?
Alors, je ne sais pas si c'est la fluidité. En général, on considère que la pratique des ventes à découvert qui s'effectue à partir des opérations de prêts d'emprunt de titres ces opérations de prêts d'emprunt de titres qui permettent d'améliorer ce qu'on appelle l'efficience informationnelle des marchés. Il y a un contenu informatif. C'est-à-dire que si quelqu'un veut acheter ou vendre une action, c'est peut-être qu'il a une information ou qu'il interprète, donc qu'il interprète avec son modèle qu'il a en tête, des informations, des chiffres économiques, et donc sa conclusion, c'est qu'il doit vendre tel ou tel titre. En vendant, il fait baisser le cours du titre, ce qui est somme toute logique, puisque s'il le vend, c'est qu'il pense que le cours du titre va baisser. Donc c'est toute l'approche de l'efficience informationnelle des marchés. Si les marchés sont efficients, ils contiennent toute l'information disponible, publique, pas privée, c'est illégal. Et donc, normalement, le prix d'un titre reflète sa valeur fondamentale. Mais ça, c'est normalement, parce que c'est très difficile, comme je dis en introduction, d'avoir la valeur fondamentale d'une action.
Alors justement, sur cette question de l'efficience des marchés, est-ce que ce qui sous-tend cette intervention des autorités de régulation dont on a parlé, ce n'est pas justement l'idée selon laquelle le marché n'est pas parfaitement efficient, Yamina Tajeddine, contrairement à ce qu'affirmait Eugène Fama dans son article célèbre publié en 1970?
Alors en fait, je dirais que c'est un débat, et je pense que ça sera un débat qui ne sera jamais clos au sein de la communauté des économistes financiers. Certains arguent de l'efficience, et puis d'autres plutôt favorables à l'inefficience des marchés financiers. Et quoi qu'il en soit, la réalité est qu'on a des temps différents sur les marchés financiers. C'est-à-dire que le temps du court terme, du très court terme, est un temps où on peut douter de l'efficience des marchés. C'est-à-dire qu'on a très souvent des surréactions. C'est-à-dire que la perception de l'épidémie constitue une menace très très forte, l'apparition d'un contexte incertain, et qui fait que les agents vont avoir du mal à raisonner. Et on va tomber dans des schémas qui sont assez étayés dans la littérature sur la myopie, l'aversion au risque, l'ambiguïté, où on ne sait plus exactement quel est le bon prix. Et typiquement, c'est ce qu'on voit de façon récurrente lors d'un krach boursier. Et c'est la raison pour laquelle l'intervention d'un régulateur, qui va en gros ramener une forme de raison, en arrêtant le fonctionnement d'un marché, en stoppant la panique, peut permettre une stabilisation ultérieure.
Les bourses ont surréagi, dites-vous, et c'est dans ce contexte que la fermeture des bourses a été envisagée. Écoutez le point de vue de Charles-Henri Dauvigny, il est président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, et il est favorable à cette mesure.
Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir raison garder et appuyer sur le bouton pause. Et puis, à partir de là, que chacun puisse reprendre ses esprits. Je constate qu'à Manille, la bourse est fermée. Quand on regarde dans le passé, en 2001, la bourse de New York a été fermée pendant 4 jours après les attentats. sur les Twin Towers, et l'ouragan Sandy en 2012, la bourse a été fermée pendant 2 jours. Donc à un moment ou à un autre, moi je ne demande pas à ce qu'on ferme la bourse pendant 1 mois. Je dis juste un mot. Je pense qu'il faut que on puisse faire pause et que on soit tous égaux aussi à un moment ou à l'autre, que ça soit l'investisseur particulier comme l'investisseur institutionnel face à ces marchés.
Que pensez-vous de cette idée de confiner la bourse, Yamina Tajeddin?
Alors en fait, c'est vrai que tout à l'heure nous avons évoqué les coupes-circuits et Euronext ou, si on prend le cas de la France, ou l'AMF peuvent aussi descendre une décider d'une suspension générale des cours, et c'est déjà arrivé effectivement la fermeture de bourse. Donc comme dans l'extrait proposé, on voit que les fermetures sont arrivées dans des situations assez différentes. Comme les attentats de Nouvelle-Orléans, où il y a un cas assez célèbre, une panne électrique. D'accord. Donc on a déjà eu des précédents de suspension. L'idée étant que c'est pas nécessairement des mesures qui sont pour des considérations exclusivement humaines ou humanistes, mais plutôt d'égalité d'accès sur les marchés financiers.
Et ça devrait permettre de limiter la chute des indices.
Alors en fait, dans le cas de la suspension générale, les cas récents qu'on a, c'est plutôt la question de l'équité et du respect de l'accès à tous à la bourse. Or, précisément, dans le cas de l'épidémie, cet accès était garanti à tous. Donc, en fait, le motif très souvent qui permet d'invoquer, puisque dans l'histoire le 11 septembre, outre le traumatisme politique et social de cet attentat, eh bien, le problème, c'est qu'il y avait aussi énormément de salles de marché qui étaient présentes dans les deux tours. Et donc, on avait quand même attaqué le poumon de Wall Street, un poumon important. Et effectivement, on a des suspensions aussi lors de guerre, donc on est bien d'accord qu'il y a des situations dramatiques, la bourse s'interrompt. Mais là, finalement, concrètement, les gens pouvaient, de chez eux, poursuivre une activité financière.
Mais la bourse de Manille, par exemple, aux Philippines, qui a été fermée, l'objectif, c'était bien de limiter la casse, si je puis dire, Catherine Lubochinski.
Oui, alors ça m'interpelle toujours un petit peu ces mesures, parce qu'il y a le pour et le contre. C'est un peu aussi casser le thermomètre quand vous avez de la fièvre, et donc là, oui, il n'y a plus de fièvre. Alors, on comprend que les autorités veuillent éventuellement fermer les bourses pour éviter, en général, c'est une trop forte baisse, hein, c'est jamais éviter une trop forte hausse. Alors, ça ne règle absolument pas le problème. C'est-à-dire qu'imaginez qu'on ait une crise économique fondamentale réelle, qu'on ferme la bourse pour empêcher les cours de bourse de baisser, le prix des actions de baisser, ben, quand vous allez rouvrir, vous allez avoir tout simplement un saut. C'est-à-dire que les premiers échanges qui vont avoir lieu peuvent être pires que si on avait laissé la bourse ouverte, c'est-à-dire qu'on va passer d'un prix de 100 qui aurait pu progressivement chuter jusqu'à 50, vous fermez la bourse, vous la rouvrez, et le prix, premier prix coté, il est à 50. Donc ça peut ne rien changer au problème, et en plus ça pose des problèmes fondamentaux pour toutes les stratégies de couverture. Les stratégies de couverture, en particulier les assurances de portefeuille, doivent être gérées en continu. Donc si vous ne pouvez plus gérer en continu et que le prix suivant c'est à 50, bah, vous auriez peut-être pu sortir à 80, à 60, mais pas directement à 50. Donc c'est pas vous casser la liquidité et c'est pas automatiquement une bonne réponse. Je pense que les coupes-circuits éventuellement laissent le temps peut-être aux investisseurs de réfléchir un petit peu. Et puis voilà, on rouvre quelques minutes, un quart d'heure après, une heure après, mais fermer la bourse, je ne vois pas beaucoup l'intérêt, sauf en cas de crise majeure, comme Yamina l'indiquait tout à l'heure.
La fermeture des bourses pourrait également mettre en péril les titres de dette, Yamina Tajeddin?
Exactement. Alors le point qui est très important, c'est que la fermeture de la bourse a questionné sur la moralité des activités financières, alors même que l'on était dans un contexte où les autres activités, elles, n'avaient pas le droit d'être exercées. Et véritablement, je pense que ce débat-là est important. C'est-à-dire que, techniquement, et au regard des règles en usage sur les bourses, il était logique qu'elles puissent continuer à fonctionner. Mais au regard de ce qui se passait dans la société, eh bien, on peut avoir un questionnement sur le maintien normal des activités financières, alors même que toutes les autres activités vont basculer dans la normalité.
Et puis peut-être que ça n'a pas de sens de fermer une seule bourse. Catherine Lubochinski, il aurait fallu fermer toutes les bourses mondiales ou ne rien faire?
Oui, alors ça dépend un peu ce que vous englobez dans la bourse. Si on parle juste des marchés actions, il faut bien savoir que pendant les 2-3 mois là de crise sanitaire, il n'y a quasiment pas eu d'introduction en bourse. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas augmenté leurs fonds propres. Les seules activités qu'il y a eu côté actions, c'est des achats et ventes sur le marché secondaire. Bon, alors, dire qu'il faut fermer la bourse avec les risques que ça comporte à la réouverture, c'est un peu gênant pour les actionnaires à qui, finalement, on interdit le droit de vendre leurs actions. Hein, on les empêche de vendre leurs actions, puisque la bourse est fermée. Alors, c'est vrai, Yamina, elle dit, les entreprises, l'activité réelle était à l'arrêt, mais pas toutes les entreprises. Et il y a eu beaucoup de télétravail. Donc, toutes les activités ne sont pas arrêtées. Sinon, ça aurait été dramatique d'un point de vue économique. Ça l'est déjà assez comme ça. Donc, et puis, à côté, si on parle des produits de dette, d'emprunt, eh bien, les entreprises avaient d'énormes besoins de trésorerie, avaient besoin de renégocier certains de leurs échéances de prêts. Et donc, on voit bien qu'on avait besoin de la finance, du fonctionnement des marchés financiers et de services bancaires pendant cette crise sanitaire. Donc, je vois pas où est le problème moral, parce que il aurait été amoral d'empêcher les entreprises de se procurer la trésorerie dont elles avaient besoin, alors qu'il y avait déjà des difficultés économiques réelles.
Et depuis le mois de mars, la bourse a retrouvé des couleurs et cette semaine a été une semaine d'euphorie pour les marchés financiers. Comment expliquer cet optimisme? On en parle dans un instant, mais d'abord Janis Joplin appelle au retour de la confiance. Trust me, c'est tout de suite sur France Culture.
Trust in me, baby. Give me time, give me time. Heard somebody say, the older the grain, sweeter the wine, sweeter the wine. Oh, my love is like a sea, baby. Just needs time to grow. It's going stronger day by day. As it rises. Give me time, give me time, please, a little more time. Takes the road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind, I gotta make up my mind.
Trust Me de Janis Joplin sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Retour dans les salles de marché en compagnie des économistes Catherine Lubochinski et Yamina Tajedine Fourneyron. Nous avons parlé de l'effondrement des cours de la bourse à la fin du mois de février, mais toutes les valeurs boursières n'ont pas chuté. L'indice Nasdaq 100 des valeurs technologiques a même atteint un record historique, Yamina Tajedine.
Oui, exactement. Je pense que c'est un point très important, c'est que les Google, Amazon, Facebook ont pleinement fonctionné, les entreprises aussi de la santé. Et à ce titre-là, ces entreprises-là, si on revient au débat qu'on avait initialement sur l'efficience et la sphère réelle, la sphère financière, eh bien, côté sphère réelle, ces entreprises ont des chiffres d'affaires qui se sont maintenus pendant la période de confinement et qui distribueront assurément des dividendes importants à leurs actionnaires. Donc la bourse a été aussi le reflet de cette situation bicéphale avec quelques entreprises qui s'en sortent très très bien. Et puis d'autres, au contraire, qui ont connu de grandes difficultés.
Vous diriez que la crise sanitaire a accentué l'emprise de la tech sur Wall Street ?
Oui, oui. Et si on regarde la hausse et si on regarde ce qui a tiré, par exemple, l'indice Standard & Poor's, eh bien en fait, vous avez Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, donc c'est-à-dire 5 entreprises qui expliquent 20% de la hausse du Standard & Poor's. Voilà. Donc en fait, si on enlève ces entreprises-là, donc sur Standard & Poor's, et si on enlève au Nasdaq et eh bien toutes les entreprises de tech ou de santé, eh bien on verra que le reste est dans une situation beaucoup plus compliquée.
Catherine Lubochinski, sur ces entreprises qui ont continué à tirer leur épingle du jeu pendant la crise sanitaire.
Mais oui, mais on comprend bien pourquoi. Bon, il y a eu, par exemple, Zoom, dont le cours a augmenté très fortement jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y a un problème de sécurité. Mais le cours a augmenté. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est mis à utiliser Zoom. Donc,
tout. Ou la société de diagnostic biomérieux, par exemple.
Voilà. Donc, tout ce qui est lié à la santé et aux technologies qui facilitent le télétravail, on voit bien que ces entreprises sont a priori promises à un bel avenir. Ce qui est peut-être plus surprenant, qui peut nous laisser perplexes, c'est que cet indice Standard & Poor's qui revient quasiment à son niveau de début d'année, donc un point plus haut, eh bien il y revient alors que le NBER, qui est l'organisme américain qui date officiellement les débuts de récession aux États-Unis, eh bien a dit que l'activité américaine était rentrée en récession à partir de février. Donc on prévoit des baisses de PIB, d'activité économique, les plus fortes qu'on ait connues depuis la Deuxième Guerre mondiale, et là, miraculeusement, le cours des actions remonte et même le cours des actions des compagnies aériennes comme Boeing ont vu leur cours remonter. Alors ça s'explique bien sûr parce que les États vont intervenir et aider ces compagnies aériennes, ces compagnies de transport, mais on voit aussi les compagnies du secteur énergétique qui remontent parce que évidemment le prix du baril de pétrole remonte lui aussi. Mais là, c'est déconnecté un peu de la crise sanitaire.
On a également vu Warner Music faire un retour en fanfare à Wall Street avec un titre qui s'est envolé de plus de 20% dès la première séance. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour de la confiance sur les marchés qui a en effet de quoi étonner Yamina Tajeddine ?
Alors, il y a des éléments qui sont liés à la production, donc que l'on vient d'évoquer. C'est aussi la décision des banques centrales européennes, de la Banque centrale européenne et de la Fed, ainsi que de la Banque centrale du Japon et d'Angleterre, d'apporter de la liquidité aux institutions financières, mais surtout aussi alimenter la liquidité de marché directement en achetant des titres et des créances. Et cette dimension-là rend les investisseurs, de façon tout à fait rationnelle, confiants sur l'avenir, puisque vous savez, quoi qu'il en soit, que vous pourrez revendre les titres que vous possédez aux banques centrales qui jouent le rôle de teneurs de marché finaux. Donc,
on va y venir, mais simplement un mot encore sur l'état de la bourse et la configuration actuelle. Ce que l'on constate, c'est que la bourse est toujours dominée par les États-Unis et de plus en plus, on l'a dit, par la tech. Mais la Chine monte en puissance aujourd'hui, Yamina Tajeddine.
Alors, les bourses chinoises, effectivement, prennent un poids de plus en plus important depuis la crise de 2008. On voit régulièrement leur domination dans les classements proposés des places financières. Et effectivement, les différentes places, puisqu'il y en a plusieurs en Chine, sont désormais les espaces où il y a un nombre croissant de transactions financières. Alors, attention, Wall Street n'est pas encore détrôné, mais par contre, d'ores et déjà, Paris est bien derrière en termes de volume de transactions et de capitalisation boursière, les places de Hong Kong, de Shanghai, de Shenzhen.
Un chiffre peut-être pour comprendre, la Chine pèse désormais 16% des capitalisations boursières mondiales contre encore 46% pour les États-Unis. En effet, l'Amérique, les États-Unis sont loin d'être détrônés, Yamina Tajeddin.
Ils sont encore très loin parce que vous avez de très fortes multinationales américaines et les plus grandes multinationales européennes sont aussi cotées sur Wall Street. Donc Wall Street actuellement reste, je dirais, l'épicentre de la capitalisation boursière pour les compagnies internationales et même certains grands groupes chinois sont cotés à Wall Street. Donc ce statut particulier de foyer et d'épicentre de la finance, eh bien, vient aussi de la confiance qui existe au niveau de la réglementation américaine hein, sur le respect du droit des créanciers et des actionnaires, ainsi que de la présence à Wall Street des plus grandes institutions financières et bancaires internationales.
On l'a dit, on assiste aujourd'hui à un retour de la confiance sur les marchés et même à une euphorie boursière que Émile Zola avait si bien dépeint dans son roman intitulé « L'argent » publié en 1891.
Comprenez donc que la spéculation, le jeu, est le rouage central, le cœur même dans une vaste affaire comme la nôtre. Oui, il appelle le sang, il le prend partout par petits ruisseaux. L'amasse, le renvoie en fleuve dans tous les sens, établit une énorme circulation d'argent qui est la vie même des grandes affaires. Sans lui, les grands mouvements de capitaux, les grands travaux civilisateurs qui en résultent sont radicalement impossibles. Les risques, tout est là, et la grandeur du but aussi. Il faut un projet vaste dont l'ampleur saisisse l'imagination. Il faut l'espoir d'un gain considérable, d'un coup de loterie qui décuple la mise de fonds quand elle ne l'emporte pas. Et alors les passions s'allument, la vie afflue, chacun apporte son argent, vous pouvez repétrir la terre. Quel mal voyez-vous là? Les risques courus sont volontaires, répartis sur un nombre infini de personnes, inégaux et limités selon la fortune et l'audace de chacun. On perd, mais on gagne, on espère un bon numéro, mais on doit s'attendre toujours à en tirer un mauvais, et l'humanité n'a pas de rêve plus entêté ni plus ardent, tenter le hasard, obtenir tout de son caprice, être roi, être Dieu.
Un extrait de L'argent de Zola, lu par Alexandra Candy-Longuet. Que vous inspire cet éloge de la spéculation, Catherine Lubochinski?
Eh bien, que, je dirais que l'espoir d'un gain, comme on l'a entendu dire, c'est l'appât du gain, ça c'est presque inhérent à l'être humain, en règle générale. Donc, quand on parle de spéculateur, le spéculateur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc, s'il prend des risques, il doit être rémunéré parce que, parfois, il fait des pertes. Et c'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire que, normalement, un spéculateur ne gagne pas à tous les coups et fait des pertes et doit pouvoir les assumer. Donc, dans ce sens-là, on devrait accepter l'existence de spéculateurs sur les marchés financiers qui, de plus, contribuent à la liquidité parce qu'ils offrent des titres, ils veulent les acheter, ils veulent les vendre. Donc quand vous voulez revendre un titre, s'il n'y a personne qui veut l'acheter en face, le marché n'est pas liquide et vous ne pouvez pas le vendre. Donc on a besoin de ces intervenants qui prennent des risques. On en a besoin, évidemment, il ne faut pas qu'ils soient en quantité excessive. Le problème, c'est qu'on ne sait pas définir la spéculation, donc on ne sait pas définir la quantité excessive de spéculation. Quand vous achetez un titre, pour une journée. Vous dites, ah, mais si vous l'achetez juste pour la journée, vous êtes un spéculateur. D'accord. Mais si vous l'achetez pour un mois, un mois, c'est peut-être un peu court. Bon, alors 3 mois, 1 an. À partir de quand on est un investisseur et non plus un spéculateur? On ne peut pas donner de... On sait très bien qu'à une journée ou à 5 minutes, c'est de la spéculation. On sait très bien qu'à plusieurs années, c'est de l'investissement. Mais où est-ce que vous mettez la frontière? Vous ne pouvez pas la mettre. Donc c'est compliqué.
Ce n'est pas si simple de différencier le spéculateur et l'investisseur, Yamina Tajeddin?
C'est effectivement la question du temps du placement. Et ce temps-là, je vais dire ça autrement, c'est qu'effectivement, on peut dire que théoriquement, peut-être, au bout de, vous savez, conserver votre titre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et vous serez un bon investisseur. Et que, contrario, si vous le gardez moins longtemps, vous êtes un mauvais spéculateur. La réalité est que le temps en finance est quelque chose qui n'est pas calendaire. Ça veut dire que si vous avez un krach boursier, vous avez quelque chose qui va vous amener à prendre des décisions que vous auriez peut-être prises, mais dans 3 ou 4 ans. Mais que le temps se raccourcit ou se rallonge en fonction de la volatilité. Et est-ce qu'on peut raisonnablement interdire à quelqu'un, par exemple, de vendre quand il voit que tout le monde vend et en disant attention là, vous êtes un mauvais investisseur? Ou au contraire, d'acheter, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a observé. Si les cours sont repartis, à partir de mars, hein, très rapidement, hein, c'est quand même malgré tout, parce que vous avez des gens qui ont voulu acheter. Et ces gens qui ont voulu acheter, effectivement, la perspective était de pouvoir revendre à un prix plus haut, et en ce sens-là, ils sont un spéculateur. Mais si pour certains, ils les gardent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien finalement, leur intervention à partir de mars-avril aura permis à ce que les cours cessent de diminuer. Donc, en ce sens-là, ils ont acheté les titres dans une perspective pure de spéculation, à savoir revendre à un prix plus haut, mais ils ont participé de ce fait à ce que le krach ne se prolonge pas.
Et en l'occurrence, le confinement a fait émerger de nouveaux investisseurs ou de nouveaux spéculateurs, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, Catherine Lubochinski.
Oui, de nouveaux investisseurs qui cherchent tous à revendre un prix plus haut qu'ils ont acheté. C'est une étude de l'AMF qui est sortie très récemment, qui montre que du 24 février au 3 avril, vous avez eu 150 000 nouveaux investisseurs. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez en France à peu près 1,1 million, on va dire, d'actionnaires individuels. Hein. Les autres passent par de la gestion collective. Et donc 150 000 en plus, c'est beaucoup. Et on parle de nouveaux investisseurs parce qu'ils n'étaient jamais intervenus directement en bourse, ni en 2018, ni en 2019. Et ce qui est intéressant, c'est que ces nouveaux investisseurs ont entre 10 et 15 ans de moins que les investisseurs traditionnels sur les actions françaises. Alors, ça explique entre autres que, évidemment, le montant médian d'achat de titres par ces nouveaux investisseurs soit 2 fois plus faible que les investisseurs traditionnels qui, plus âgés, en général, ont un petit peu plus de finances.
On l'a dit, la bourse vient de passer une semaine d'euphorie et pourtant l'OCDE prévoit une récession mondiale d'au moins 6% pour 2020. Ce serait la pire contraction en temps de paix de ces 100 dernières années. Comment est-ce qu'on explique ce décalage? Est-ce qu'il faut comprendre finalement que les entreprises cotées en bourse ne reflètent pas vraiment l'économie réelle, Yamina Tajeddine?
Alors, c'est à nouveau le débat sur l'efficience informationnelle. Globalement, les études ont tendance à dire qu'à très long terme, les marchés sont efficients. Autrement dit, quand on regarde sur 40-50 ans l'évolution des indices, des cours boursiers, eh bien, on voit qu'ils sont conformes au PIB. Donc, sur 30-40 ans, et si on reste pendant 30-40 ans dans une récession, évidemment, un jour ou l'autre, les cours boursiers vont diminuer. Du fait de ce phénomène de retour à la moyenne hein, sur le long terme de l'évolution des cours boursiers avec la croissance économique. Par contre, sur le moyen terme, qui est en gros ce qui nous intéresse, à savoir 2, 3, 4, 5 ans, là, les conclusions des économètres financiers sont moins stabilisées. Et pour venir précisément à la situation présente, j'aurais personnellement du mal à croire que la reprise observée sur les marchés financiers soit conforme à ce qu'on anticipe réellement sur la sphère réelle. Parce que on était déjà dans une période de stagflation depuis quand même pas mal d'années depuis la crise financière. Et sur l'année qui vient, on s'attend à une récession et tous les signaux sont rouges. Donc que ce soit le chômage, que ce soit la production industrielle, que ce soit la plupart des secteurs économiques vont être directement touchés.
Vous partagez ce point de vue, Catherine Lubochinski, les marchés n'ont pas raison d'anticiper finalement un rebond de l'économie, si c'est bien ce qu'ils font.
Oui, effectivement, ils anticipent une reprise de l'activité économique. Alors évidemment, ils prennent en compte à la fois les interventions importantes des banques centrales, les interventions des pouvoirs publics avec des politiques budgétaires très généreuses. Et donc, ils anticipent. En fait, ça veut dire qu'ils anticipent une reprise très rapide de l'activité économique. Alors je voudrais quand même juste apporter un bémol à l'interprétation de l'évolution des indices boursiers par rapport à l'activité économique globale, c'est que ces indices boursiers sont, représentent l'évolution du prix des actions des plus grosses entreprises. Et on voit bien en France, quand on regarde l'indice CAC 40, ce sont 40 entreprises. Donc évidemment, tout dépend du poids respectif de ces entreprises, enfin des secteurs de ces entreprises dans l'indice. Donc vous avez les compagnies aériennes qui sont mal en point sans doute pour plusieurs années. Donc Air France KLM, vous savez, a perdu la moitié de sa capitalisation. Le prix de ses actions était divisé par deux, et c'est pas vraiment reparti. Et puis dedans, vous avez d'autres sociétés qui vont mieux s'en sortir de la crise. Mais en France, le tissu économique est aussi composé de petites et moyennes entreprises ou d'autres entreprises cotées qui ne sont pas obligatoirement dans ces indices boursiers. Donc voilà, donc c'est difficile d'interpréter exactement ce à quoi pensent les investisseurs quand on voit les cours de bourse remonter avec une telle violence alors que on rentre en récession. Mais quand vous regardez les prévisions aussi bien de la Banque mondiale, de l'OCDE et du FMI, pour l'instant, parce que tout peut changer, pour l'instant, ces organismes internationaux prévoient que la croissance économique va repartir, et va repartir de façon dynamique en 2021. Or, comme je disais au tout début de l'émission, le cours des actions, c'est pas simplement les dividendes de l'année prochaine, ce sont les dividendes pour les années à venir. Et donc, à partir du moment où vous considérez que ce n'est qu'en 2020 qu'on va avoir une chute très importante de l'activité économique, mais que vous restez optimiste pour les années suivantes avec effet de rattrapage et donc très forte croissance, il n'y a aucune raison à ce moment-là que les cours ne remontent pas et corrigent les excès de baisse qu'il y avait eu. Mais on retrouve toujours cet effet de surréaction et sous-réaction sur les cours de bourse.
Et si les cours remontent, c'est aussi lié à la politique monétaire. On constate une interdépendance entre banque centrale et marché financier. Le 12 mars 2020, une simple déclaration de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a affolé les marchés.
Mon deuxième point concerne l'augmentation de l'émission de dette à venir, en fonction de l'expansion budgétaire qui sera déterminée par les décideurs politiques. Nous serons là, comme je l'ai dit précédemment, en utilisant une flexibilité totale, mais nous ne sommes pas là pour réduire les spreads. Ce n'est pas la fonction ou la mission de la BCE. Il existe d'autres outils pour cela, d'autres acteurs s'occupent de ces questions. Nous utiliserons nos outils, y compris le programme d'achat d'actifs, en déviant temporellement les clés de répartition du capital, si nécessaire, afin de soutenir la zone euro et d'éviter tout risque de dislocation. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous devrions le faire. Nous avons les outils pour lutter contre la fragmentation et nous les utiliserons.
Ce discours de Christine Lagarde a provoqué en direct une nouvelle chute des bourses européennes. Comment expliquer cette réaction des marchés, Catherine Dubochinski ?
Alors, c'est ennuyeux de répondre à cette question parce que, on a considéré que Christine Lagarde avait fait une boulette. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que c'était réduire les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux d'intérêt entre les pays de la zone euro. C'était pas la préoccupation principale de la Banque centrale européenne, mais elle s'est reprise après. Et on voit bien que les interventions, les achats de titres de dette par la Banque centrale européenne, avec le programme lié à la pandémie, donc les 750 milliards augmentés des 600 milliards qui viennent d'être annoncés, c'est des rachats de dettes qui ne vont pas être faits en fonction de la clé de répartition au capital des différents pays. Ça veut dire que la Banque centrale va pouvoir justement acheter de la dette des pays qui sont un peu plus en difficulté que les autres. Et on voit bien, elle a acheté massivement les dernières émissions de la dette publique italienne. Alors, pas l'émission, hein, sur le marché secondaire. Donc, là encore, la réaction des marchés boursiers à cette intervention, qui était une maladresse verbale, je pense, et on en a fait tout un foin, parce que ça devait être une femme, sinon on l'aurait passé sous silence. Cette surréaction des marchés boursiers qui n'avait pas lieu d'être. D'ailleurs, elle a pas perduré. Et après, Christine Lagarde a bien expliqué que les banques centrales donc intervenaient bon, en baissant les taux quand elles le pouvaient, mais la Banque centrale européenne, on est déjà au taux d'intervention zéro, donc c'est difficile de mettre en place des taux négatifs. Et donc, l'alternative, c'est l'assouplissement quantitatif du crédit avec du rachat massif des dettes publiques par la BCE.
Nous dit peut-être quand même cet épisode, Yamina Tajidine, c'est cette forte interdépendance entre la Banque centrale européenne et les marchés boursiers.
Effectivement, parce qu'en fait, on voit que depuis la crise de 2008, les marchés financiers sont quand même sous perfusion de liquidités initiatives des banques centrales. Et je dirais que là, dans l'intervention, il y a quand même le spectre de la crise de la zone euro qui est revenu, c'est-à-dire parler de la fragmentation, et puis les différences de spread entre les différents taux d'intérêt des pays membres de la zone euro, eh bien, c'est remettre dans les anticipations des acteurs la possibilité que la zone euro éclate. Et cette double dépendance, c'est-à-dire une dépendance qui vient des liquidités, mais aussi cette dépendance liée à l'existence même de la zone euro, eh bien, est essentielle aussi au fonctionnement des marchés financiers, puisque l'euro reste une des monnaies phares sur les marchés financiers et participe aussi de la confiance sur les marchés financiers.
Et en quoi ces injections massives de liquidités qui se réalisent à travers justement ce rachat de dettes publiques et privées sur les marchés financiers par la BCE, en quoi ces injections de liquidités peuvent-elles entraîner la formation de bulles éventuellement, Catherine Lubochinski?
Je dirais que le premier canal de transmission sont les taux d'intérêt. Et là encore, il faut dissocier les marchés de dette des marchés d'actions. Ils fonctionnent pas tout à fait pareil. Mais quand, par exemple, la Banque Centrale Européenne rachète massivement de la dette publique des pays de la zone euro, leur prix est soutenu, donc leur prix augmente, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont baisser. Donc on a des taux très faibles. Ces taux servent aussi à l'actualisation des flux. J'en reviens, je suis un peu monomaniaque, mais comme je disais tout à fait au début de l'émission, le prix d'une action, c'est la valeur actualisée des dividendes futurs, et l'actualisation se fait avec des taux d'intérêt. Donc indirectement, ces injections massives de liquidités, dans un premier temps, qui font baisser les taux d'intérêt, font mécaniquement augmenter le cours des actions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'après, les acteurs économiques ont à leur disposition énormément de liquidités, puisqu'on leur a racheté de la dette publique, et il faut bien qu'ils investissent ces liquidités quelque part. Et en gros, il vous reste ce qu'on appelle dans les marchés financiers traditionnels, il vous reste les marchés actions, les marchés immobiliers, et on voit donc du coup les cours de bourse augmenter, surtout que quand on sait qu'il y a de moins en moins d'entreprises cotées dans le monde occidental. Donc vous avez des fonds à votre disposition. Si vous rachetez de la dette à taux nul ou à taux négatif, n'oubliez pas qu'il y a plus de 10 000 milliards de dettes à taux négatif dans le monde. Donc si vous rachetez de la dette à taux zéro, ça rapporte pas grand-chose. Donc vous allez accepter de prendre un peu plus de risques et d'acheter des actions pour essayer d'avoir du rendement. Donc ça pousse, là encore, le prix des actions à la hausse. Ou bien vous allez vers l'immobilier, on a vu que le prix de l'immobilier a augmenté, et donc on considère que un des effets pervers de ces politiques très expansionnistes par les banques centrales, pas seulement la Banque centrale européenne, hein, n'oubliez pas que la Banque du Japon mène ce type de politique depuis 2001, je crois, donc ça date pas d'hier, ce type de politique monétaire a comme effet pervers de créer éventuellement des bulles qu'on appelle spéculatives, évidemment, des bulles spéculatives, c'est-à-dire que les prix des actifs s'écartent de leur valeur fondamentale, donc aussi bien les actions que éventuellement l'immobilier.
Et alors, pour éviter la formation de ces bulles, il faudrait faire en sorte que la politique monétaire soutienne davantage l'économie réelle, Yamina Tadjedine, et ça passerait par exemple par la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire le fait de distribuer directement de l'argent aux citoyens.
Alors, il est exact que la politique monétaire telle qu'elle est construite depuis une trentaine, quarantaine d'années, a pour relais unique les banques. Et par le canal que vient d'exposer Catherine, c'est-à-dire qu'effectivement, les banques vont ramener les titres, et principalement des titres de dette, voire des créances qu'elles possèdent, à la banque centrale, et repartir avec de la monnaie banque centrale, donc avec des euros, des dollars, des yens, de la sterling, et une fois qu'elles ont à nouveau cet argent-là, eh bien pouvoir acheter ou des actions, ou de l'immobilier, ou des produits dérivés, mais en tout cas rester sur une sphère qui n'est pas la sphère réelle. Alors théoriquement, la BCE, si elle permet ce dispositif-là, c'est qu'elle espère que les banques feront du crédit derrière avec les liquidités qu'elles ont récupérées auprès de la Banque Centrale Européenne. Mais ce n'est pas sûr. Effectivement, le concept de monnaie hélicoptère, c'est au lieu de passer par l'entremise des banques, aller directement aux entreprises ou aux ménages.
Et c'est pour ça que la Fed, par exemple, la Banque centrale américaine, rachète des dettes d'entreprises en difficulté.
C'est exactement ça. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, la Banque de France faisait exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous étiez enregistré au registre du commerce, vous aviez la possibilité de demander le nantissement de votre créance. Donc autrement dit, vous revendiez votre créance que vous aviez auprès sur une autre entreprise ou sur un client, et comme ça vous repartiez avec de la liquidité. Et donc la monnaie hélicoptère réactualise cette question, qui est une question théorique fondamentale, des relais, des canaux de transmission de la politique monétaire.
On arrive au terme de cette émission. Un mot de conclusion peut-être très rapidement, Yamina Tadjedine, on a vraiment plus beaucoup de temps, mais sur le rôle que peut jouer la finance aujourd'hui dans la relance de l'économie.
Sans doute en changeant ses habitudes et par exemple en essayant de proposer des dispositifs qui sont plus tournés vers des finances durables ou la finance verte plutôt que des outils qui ne servent moins directement la sphère réelle.
Catherine Dubochinski, en quelques secondes.
Le rôle de la finance, moi je considère qu'il est toujours essentiel dans le financement de l'économie réelle quand il est bien fait, et pour ça vous devez relire La Bourse de Max Weber, c'est merveilleux d'actualité. Maintenant, s'orienter vers les dépenses vertes, c'est bien, mais ça ne doit pas avoir lieu juste au lendemain d'une crise, parce que ce qui est important, c'est de financer la transition vers la finance verte, et qu'on ne peut pas du jour au lendemain, par exemple, voir les cours des actions Total s'effondrer. Mais je crois qu'un pays a toujours besoin d'une finance qui est au service de l'économie réelle.
Running after shit, I think I want the double bag. A Whole World, le dernier titre du rappeur américain Earl Sweatshirt. Merci beaucoup Catherine Lubochinski et Yamina Tadjedine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria Brown, Léa Sabourin et Thibaut Affringue. À la réalisation aujourd'hui, Alexandra Candy-Longuet, à la technique Audrey Guélil. Demain, on s'intéresse au concept de rareté en économie. Nous serons en compagnie d'André Orléans et du philosophe Michel Keil. Mais d'abord, dans un instant, vous retrouverez la Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange.
Home out of house, lot of closet room. bones stacking like dominoes. Catacombs after the glow, the battle carry on. Get all that malice out your soul, the efficacy strong. I finish what I start. The funeral was hella long. I fell asleep, the effigy was short. My effervescence lost, but not entirely. I shrugged the venom off and kept a tiny piece for times we in a war. I like to think of life as deep, chilly water. We in it feeling warm, swimming upstream. Fuck his niggas' arm, icicles hanging in my heart. Cagey astray, stay away. I hate to say they made me a dog. Anxious, moving at a pallbearer's pace. My family flanked me in the rain, enemy of the state. Fuck an allegation. Caskets and cradles to the grave and back again. Thanks to the source of the creation. A match fixed like a batch of fresh lemonade. They still couldn't fade us. How much shrapnel can your soul take? The visions wasn't shabby at an angle. A phantom face in a hallway. Incarnations, angels, oracle coordinated with the fit to the floor. Let's go half on a baby. Just playing a chorus. Just saying maybe. Later on.
My vision.